quand le gouverneur romain cherche à faire un sondage pour voir quelle est la bonne décision, qui ne veut pas la prendre lui-même et qui s'en remet à la foule dit: crucifie-le. Étaient-ce les mêmes? C'est la foule de Jérusalem. Est-ce que c'était les mêmes personnes qui étaient dedans? Je sais pas. En tout cas, ceux qui criaient à l'entrée dans Jérusalem, ils n'étaient pas là ce jour-là pour défendre Jésus qu'ils avaient acclamé. Et ce temps avant la Pâque, entre l'entrée à Jérusalem et la crucifixion, c'est un temps qui montre combien le cœur de l'homme peut être changeant. On aurait tendance à dire que c'était des hypocrites qui acclamaient Jésus au moment où il rentrait, mais Jésus accepte leur louange. Il accepte ces cris de louange. Et il dit même, c'est pas dans le récit que nous a lu Sandra, c'est dans un autre évangile, dans celui de Luc, il dit même quand on veut faire taire tous ces gens qui acclament, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Cette louange, ce jour-là, elle était juste et elle rendait gloire à Dieu, malgré le faible fondement des cœurs de ceux qui les prononçaient. Je trouve que c'est quelque chose qui nous interpelle. Et j'aimerais continuer à réfléchir avec vous sur nos cœurs et comme ils peuvent être changeants. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 3. Matthieu, chapitre 27, et je commence la lecture au verset 3. Donc, je donne le contexte. Jésus vient d'être condamné par le conseil religieux. Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent: « Que nous importe, c'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent: « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbanas, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est un texte peu réjouissant. Et ce n'est pas forcément un texte sur lequel les prédicateurs se penchent naturellement. On aime se pencher sur des textes positifs, des textes où Jésus s'adresse à ses disciples, où il donne un exemple. Là, avec Judas, on a un traître, la figure du traître. Il y a peu de personnes comme ça qui rassemblent autour de leur nom une telle unanimité négative. Judas en fait partie. Que veut nous enseigner ce texte? L'apôtre Paul écrit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et cette histoire malheureuse, de la fin malheureuse d'un traître, a aussi quelque chose à nous apprendre. Que veut nous apprendre Dieu par ce texte qu'il place dans son évangile ? En regardant ce texte, il y a une première chose qui me frappe et qui apparaît vraiment de façon forte dans le texte, c'est que ce qui se passe était écrit. C'était prévu. Et ça prend une grande place dans la lecture que nous avons faite. Ça prend les versets 6 à 10, la moitié de la lecture, sert à nous montrer que tout cela était prévu. Et cette partie, les versets 6 à 10, se conclut par une citation du prophète Jérémie qui vient attester tout ça. Alors, sans entrer dans les détails, parce qu'on pourrait faire une longue étude sur le sujet, mais si vous avez des bibles d'études et que vous regardez, vous verrez qu'il y a une petite difficulté sur la citation du prophète Jérémie, parce que ce n'est pas dans Jérémie. Alors ça pose des questions qui peuvent nous troubler. Est-ce que l'évangéliste s'est trompé ? Alors, on peut faire une étude là-dessus. Je vais plutôt vous donner directement la conclusion, comme ça vous serez en paix avec cette citation. La citation provient du prophète Zacharie, qui, et si vous avez une note dans votre Bible, il va vous renvoyer vers Zacharie 11. Mais en fait, ce n'est pas exactement la citation du prophète Zacharie, et Matthieu a travaillé cette citation en combinant plusieurs textes bibliques. Et quand il l'introduit dans son texte, il cite le plus célèbre des deux. Par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui si vous vouliez parler de l'enseignement de notre Église, de la prédication que vous y écoutez. Et puis que pour en parler à l'ami avec qui vous discutez, vous combiniez quelque chose que Philippe, Fabrice et moi auraient dit. Et puis pour le présenter, vous diriez, comme l'a dit le pasteur, alors que c'est quelque chose où vous avez combiné. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque, et il y a d'autres écrits où il y a des citations combinées. Donc, une citation mélangée, Jérémie, Zacharie, est présentée comme étant attribuée au plus célèbre des deux prophètes. C'est un peu technique, mais je pense que c'était pour qu'on ne se trouble pas avec ça. Ce qui est important avec cette citation, avec ce rappel prophétique, c'est qu'il montre que tout était prévu, et ce, dans les moindres détails. Ce n'était pas prévu seulement que Jésus soit livré, soit trahi, mais on a dans cette prophétie le montant de la somme d'argent. On a le fait que cette scène se passe dans le temple. On a le fait qu'on achète le champ du potier. Tout ça, c'est des détails qu'on retrouve dans la prophétie et qui montrent combien ceci était écrit, combien Dieu avait prévu cela. Du coup vient une question. Je ne sais pas si c'est une question qui vous vient. En tout cas, moi, c'est une question qui me vient à la lecture. À quel point Judas était-il responsable, en contrôle de ce qu'il faisait ? Est-ce qu'il a vraiment voulu trahir Jésus, ou est-ce qu'il ne faisait qu'accomplir le plan de Dieu ? Et cette question, elle est renforcée par le fait que quand on lit les listes de disciples au début des évangiles, dès le moment où ils sont choisis, on a une liste de tous les disciples, et la mention Judas, celui qui allait le trahir. Avait-il été prédestiné à être traître ? Je crois qu'il ne faut pas se tromper sur les prophéties. Il ne faut pas se méprendre. Les prophéties, ce n'est pas des jeux de la part de Dieu, des espèces de clins d'œil. Je prédis un truc très précis et hop, ça se passe, vous avez vu. Non, la prophétie montre combien la connaissance du cœur de l'homme est profonde. Et dans le cas de cette trahison, les prophètes qui ont médité devant le Seigneur, la venue du Messie, du Sauveur, avaient également compris que celui-ci serait forcément rejeté, que celui-ci serait trahi. L'homme ne pouvait pas accepter un tel salut et il allait le rejeter. Cela devait se passer et cela s'est passé. Et Judas en est la preuve et non pas la victime. Parce que je crois qu'on peut dire que Jésus a cru en Judas. Il ne l'a pas choisi pour être parmi les douze juste parce qu'il fallait un traître. Il était l'un des douze. Il a eu le même enseignement que les autres, enseigné pour être apôtre. Il a été équipé comme les autres pour faire des miracles, et il les a faits, pour chasser des démons. Il avait la même chance que les autres, la même formation. Et pourtant, non. Il n'a pas fait ce choix. Est-ce que Judas avait le choix de connaître un autre destin? Je le crois. Je crois que si Jésus l'a choisi, ce n'était pas pour faire le traître de service. Il pouvait saisir la grâce et il ne l'a pas saisie. Judas a été tenté, comme les autres apôtres, mais il a ouvert son cœur au diable, il s'est laissé contrôler. Et on a le résultat qu'on connaît, la trahison. J'aimerais comparer un peu la façon dont il a géré ces événements, dont Judas a géré ces événements, avec Pierre. Dans cette même période trouble, avant la crucifixion, Pierre a aussi une trahison célèbre, un reniement. Par trois fois, il est interrogé, et par trois fois, il dit « Non, je ne connais pas cet homme. » Alors que Pierre, c'était celui qui aimait faire le fier et dire « Jésus, moi je suis fort. Jésus, moi je te suivrai partout. Je suis prêt à mourir pour toi. » Quelques heures après, à peine, il s'est effondré lamentablement. Et dans l'évangile de Matthieu, le même évangile, quand Pierre s'en rend compte, il nous est écrit que Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Jésus lui avait dit qu'il le renierait. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Alors Pierre se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Pierre aussi a connu une situation dramatique. Il a fait une erreur. Et cette erreur aussi était prophétisée, était prévue par Jésus. Et quelle est sa réaction quand il en prend conscience? Il pleure, amèrement. Il ne se justifie pas. Il ne cherche pas d'excuses. La pression était trop grande, j'étais seul au milieu de tout le monde. En plus, ils avaient des armes. Il ne cherche pas à réparer, à retourner vers les autres. Je le connaissais. Non, il comprend. Il comprend sa trahison, il comprend que il a trahi, que rien ne peut être réparé. Il comprend que son cœur n'est pas aussi pur qu'il le pensait. Il a péché. Il a péché devant Dieu, il a péché devant Jésus. Et il est saisi d'une honte immense. Mais il accepte sa honte. Il accepte sa responsabilité et il pleure amèrement sur son péché. Je crois que la Bible ne nous enseigne pas que ce qu'a fait Pierre est moins grave que ce qu'a fait Judas. La Bible nous montre qu'ils sont tous les deux loin d'avoir tout compris et Pierre a une repentance saine parce qu'il n'a pas abandonné son cœur à Satan. Et c'est une autre chose qui me frappe à propos de ce texte, où il nous est dit que Judas est pris de remords quand il se rend compte. Quand il se rend compte que, comme une conséquence de son geste, un innocent va mourir. Parce que bon, Jésus, il a pris des positions qui gênent. Mais il n'a rien fait qui mérite la mort. Et il se rend compte que son acte mène à cela. Il est pris de remords. Le mot qui est utilisé là, les remords, c'est un mot différent de la repentance. En grec, ce n'est pas le même mot qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour ces deux attitudes. Les remords, c'est plutôt les regrets sur les conséquences de ce qu'on a fait et pas une réelle repentance. Parce que la repentance, c'est quand on voit sa part de responsabilité, qu'on accepte sa culpabilité. Et la repentance, c'est le premier pas obligatoire pour changer profondément. Je ne suis pas beaucoup de football, mais je vais citer un footballeur. Il paraît que c'est le footballeur le plus célèbre. Zlatan Ibrahimovic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il a dit 2-3 bricoles qui n'ont pas plu en France. Et il s'est excusé. Je tenais à préciser que mes propos ne visaient ni la France ni les Français, dit-il. Je tiens à m'excuser si des personnes se sont senties offensées. Peut-être vous avez déjà entendu cette façon de dire les choses. Si je t'ai blessé, je te demande pardon. Genre, si je t'ai pas blessé, je te demande pas pardon. La question du péché, elle n'est pas sur les conséquences que je provoque. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un ou pas? Est-ce que ce que j'ai fait a été découvert ou pas? Le péché, c'est devant Dieu qu'on le connaît, qu'on le commet. C'est devant lui qu'on est responsable. C'est devant lui qu'on se pose la question. Est-ce que ce que j'ai fait est mauvais, oui ou non? Et si c'est oui, alors je me repens. Mais Judas ne se repent pas. Et dans une tentative pathétique, il essaye de revenir en arrière. En fait, je ne voulais pas qu'il meure. Si je vous rends l'argent, on peut revenir en arrière? Et les prêtres ont une réponse glaçante, à la fois glaçante et prophétique. C'est ton affaire. Tu as fait ce que tu as fait. C'est ta responsabilité. C'est ton péché. Judas comprend. Il comprend que c'est à cause de son geste qu'un innocent va mourir. Il comprend que c'est à cause de lui, que c'est sa décision, qu'il est pleinement coupable. Et face à une telle culpabilité, il ne se tourne pas vers Dieu, mais il préfère se donner la mort. Laissons Judas pour le moment, laissons-le à ce désespoir stérile et posons-nous la question de ce que nous pouvons faire, nous, de ce récit. Nous l'avons vu, Judas avait de belles chances pour réussir sa vie. C'était un disciple. Il avait été choisi par Jésus, qui avait investi sur lui. Il avait marché avec lui, il l'avait vu, il l'avait écouté. Il avait pu poser toutes ses questions personnelles, face à face. Il avait même goûté la puissance de pouvoir faire des miracles dans le nom de Jésus. Et malgré tout cela, il s'est perdu. Je crois que cela devrait nous inspirer de la crainte. S'il est tombé, s'il a chuté, nous ne devrions pas faire trop les malins et croire que nous sommes arrivés et que rien ne peut nous arriver. On aurait tort de croire que Judas est à part, que de toute façon, il était mauvais, que plus personne ne peut chuter comme lui, et surtout pas nous. Oui, il a eu un destin un peu particulier. Cette occasion malheureuse de trahir et de livrer le Seigneur, elle ne se reproduira pas maintenant que tout est accompli. Mais, comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde dans le récit pascal et qu'on s'approche de cette période, nombreux sont ceux qui se sont trompés. On a parlé de Pierre, qui était plein d'assurance et qui a renié son Seigneur. Puis il y a les autres disciples qui, derrière Pierre, disaient « Ouais, moi aussi, moi aussi !» Où était-il ? Et puis il y a toute la foule. Toute la foule qui criait « Hosanna !» Que criait-il le jour où Pilate les a interrogés ? Notre péché est toujours possible. Il est toujours possible que nous chutions. Livrer Jésus, cela ne nous arrivera pas, mais le renier. Dire qu'on ne le connaît pas, ou se taire, ne pas assumer l'appartenance à notre maître. Vous savez, ces fois où on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à dire, mais on passe à côté, on reste dans sa coquille. Et pourtant, Jésus le dit, celui qui a prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Ou alors, on peut le renier par nos actions. Ne pas avoir les actions à la hauteur de la foi qu'on revendique. On étudie en ce moment, le mardi, durant l'étude biblique, l'épître de Jacques. La foi transformée en actes, la foi vivante par les actes, c'est décapant. L'apôtre Jean écrit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Aimons-nous toujours notre frère ? Est-il toujours dans nos préoccupations ? Je veux dire, nos préoccupations pratiques. Où est-ce que nous sommes, comme le décrit l'apôtre Jacques, quelqu'un qui donne une tape sur l'épaule et dit « Porte-toi bien et à la semaine prochaine. » Oui, on peut toujours le renier, que ce soit en parole ou par nos actes. Aussi, nous devrions écouter l'enseignement de Judas à travers sa mort. J'aimerais retenir trois choses de cet enseignement. La première, j'en ai parlé, nous ne sommes pas à l'abri. Et surtout, ce ne sont pas les signes de notre foi qui nous mettent à l'abri. Ce n'est pas, on n'est pas à l'abri parce qu'on se dit chrétien, parce qu'on vient à l'église régulièrement, parce qu'on s'y engage dans toutes sortes de services. Judas faisait des guérisons, il chassait des démons. Son destin, c'est un appel à prendre garde, à toujours nous interroger devant Dieu, à chercher à lui être fidèle, à ne pas nous arrêter en chemin, à ne pas nous croire arrivés, à rester vigilants. Et bien plus tard, quand il écrira sa première épître, Pierre dira ces paroles qui sonnent comme un écho. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Restons vigilants sur nous-mêmes. Le deuxième enseignement que nous pouvons avoir, c'est l'appel à vivre une vraie repentance. Parce que sur notre route, nous connaîtrons des faux pas. Nous en connaissons régulièrement, malheureusement, en tout cas c'est mon cas. Et il faut savoir quoi faire dans ces cas-là. Il nous faut reconnaître toute notre responsabilité devant Dieu. Reconnaître que ce que nous avons fait est mal devant lui. Ne pas chercher à nous justifier, à vouloir corriger ou masquer les conséquences de nos actes, mais reconnaître que les causes de ces actes, les causes de ces fautes sont le problème. Et ces causes, c'est notre cœur impur qui n'est pas tout entier à Dieu. Je suis tombé sur une série télé, un truc un peu dur. Dans cette série, il y a un type qui veut se faire de l'argent et qui propose à des gars louches de ses connaissances d'enlever la fille de son patron. Il sait que son patron a de l'argent, que sa fille a tel trajet. Vous l'enlevez, vite fait, vous réclamez une rançon raisonnable et comme ça, on a tous un peu d'argent. Et dans la série, comme bien souvent avec le péché, ça finit mal. Quand on flirte avec ça, le péché s'infiltre et a toujours des conséquences bien plus grandes que celles qui étaient prévues au départ. Ça finit mal et cet homme finit par se faire attraper. Et il y a cette scène pathétique où il trouve toutes sortes de justifications. C'est aussi la faute de son patron qui était riche et qui ne voulait pas l'augmenter. C'est aussi la faute de ses amis qui sont des truands et qui ont donné cette possibilité de pouvoir faire cet enlèvement. C'est aussi la faute de sa femme qui ne l'a pas retenue. Combien cette situation est réaliste? Qu'il est difficile de reconnaître sa responsabilité, de reconnaître que c'est nous, que c'est moi qui ai péché, devant Dieu et sans excuse. C'est difficile de le reconnaître, mais il y a une bonne nouvelle. C'est que la Bible nous annonce que Dieu est prêt à nous accueillir avec une telle attitude. Et je prends l'exemple de ce que dit Jean dans sa première épître. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Et puis, la troisième leçon que nous pouvons retenir, c'est que Dieu contrôle tout. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça rassurant. Toute la Bible nous montre que Dieu contrôle tout, que rien ne se passe au hasard. Et même quand on se plante lamentablement, qu'on fait, comme dit l'apôtre Paul, le mal qu'on ne voulait pas faire, le mal que l'on déteste, même dans ces situations, tu contrôles. Et c'est pas parce qu'on a raté quelque chose que son plan divin n'aura pas lieu. Il contrôle tout. Et Jésus le disait pour rassurer ses disciples, ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou ? Et pourtant, pas un seul d'eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Le plus petit des oiseaux, le moindre des cheveux sur votre tête. Dieu est au courant et il contrôle. Nous pouvons faire toutes les bêtises du monde, rien ne se passera qu'il n'ait décidé. Aussi, ne nous laissons pas dévorer par le remords, mais vivons une repentance sincère, parfois douloureuse, mais sincère, comme un pas qui nous amène vers le chemin à être toujours plus près du Seigneur, toujours plus près de ce que Dieu attend de nous. Je le disais au début, toute écriture est utile pour former les disciples. Et ce récit tragique, désespéré, de la mort de Judas, il est utile pour nous aussi. C'est un rappel pour chacun d'entre nous d'être vigilants, de ne pas nous croire arrivés, mais d'ouvrir les yeux. Ne prenons pas la confiance, comme on dit, mais persévérons pour nous rapprocher de Dieu. Persévérons, et si nous chutons sur la route, que nous passons des moments où nous ne sommes pas fiers de nous, eh bien, sachons nous repentir. Endosser notre responsabilité et repartir avec lui, dans sa volonté, avec la confiance que lui fait toutes choses bonnes. Amen.